carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Gauthier Jurgensen.
Bienvenue dans la chronique cinéma de Canal Académie. Je reçois aujourd'hui un jeune acteur qui vient de débuter sa carrière, qui vient de terminer son premier film, car c'est aussi le privilège des chroniqueurs cinéma et le devoir de promouvoir les jeunes talents du cinéma. Alors Jean d'Ormesson, bonjour.
Bonjour. Il faut être très indulgent avec moi parce que je suis à la fois un débutant et un vieillard. Donc deux motifs d'indulgence.
Vous restez quand même le plus jeune des immortels, pour toujours. Vous êtes maintenant le doyen des immortels. Vous êtes aussi l'écrivain qu'on connaît. Il vous manquait presque plus que la fonction de président de la République. Et c'est ce film, Les Saveurs du Palais, qui vous l'offre. Alors, en quelques mots, Jean d'Ormesson, de quoi parle ce film, Les Saveurs du Palais ?
Eh bien, ce film est un film sur la cuisine. Ce n'est pas le premier film sur la cuisine. Il y a un film sur la cuisine qui est célèbre et qui était admirable, qui s'appelait Le Festin de Babette. C'était un film scandinave avec Stéphane Audran. Et je me rappelle que c'était un grand, grand souvenir que ce film, qui était sorti à peu près en même temps que Out of Africa. C'était à peu près la même époque, c'était très différent, et c'était un film merveilleux. Eh bien, Les Saveurs du Palais sont aussi un film sur la cuisine. Il se trouve que François Mitterrand avait un peu assez de la nourriture officielle. Et vous savez qu'il avait ce goût du terroir qui apparaît de temps en temps chez lui, qui apparaissait notamment dans son motto électoral où il paraissait devant un clocher d'église, ce qui avait fait beaucoup jaser qu'un socialiste laïque, dans sa profession de foi, se présente avec une photo avec une église en arrière-plan. C'est qu'il aimait beaucoup la France profonde, le terroir, les traditions, et il en avait assez de cette cuisine officielle où on ne sait jamais ce qu'on mange. C'est couvert toujours de sauces. Et il a demandé une cuisinière qui existe vraiment, qui s'appelle Danielle, qui habite entre le Périgord et Brive, et on lui avait recommandé cette personne, qui est une personne très intéressante, qui a eu une vie étonnante, puisque elle était notamment une cuisinière dans la mission française de l'Antarctique, dans des conditions qui étaient vraiment difficiles. Et il l'a fait entrer à l'Élysée, et j'imagine que quand j'allais déjeuner avec François Mitterrand, j'ai dû manger la nourriture de Danielle.
Qu'elle préparait elle-même.
Préparait elle-même. Et cette histoire a été portée à l'écran par une équipe qui était dirigée par Étienne Comard, qui était l'homme qui a produit
et scénarisé Des Hommes et des Dieux.
Des Hommes et des Dieux.
Bien sûr.
Et un matin ou un après-midi, je ne sais plus, le téléphone sonne chez moi et au bout du fil, Étienne Comard qui me dit: j'ai fait Les Hommes et les Dieux, je fais maintenant un autre film avec Christian Vincent. Je connaissais le nom de Christian Vincent qui avait fait un très joli film qui s'appelait La Discrète. Et je fais un film avec Catherine Fraud. Alors, Des Hommes et des Dieux, Christian Vincent, Catherine Fraud, je me suis dit c'est intéressant. Et il y a un rôle de président de la République. Et celui qui devait le jouer, c'était Claude Rich. Et souffrant, ne peut pas prendre le rôle. On va vous dire la vérité. Nous sommes à 5 jours du tournage. Nous avons cherché parmi les comédiens, nous n'avons pas trouvé. Nous sommes descendus plus bas. Nous avons cherché parmi les politiques. Ils se sont tous défilés. Nous avons cherché plus bas encore. Et votre nom est sorti.
parmi les académiciens.
Je vous donne 24 heures pour dire oui ou non. Et j'ai dit, écoutez, vous, Des Hommes et des Dieux, Christian Vincent, La Discrète, Catherine Fraud, je n'ai pas besoin de 24 heures, c'est oui.
Ça fait rêver tout de suite. Et alors, mais puisqu'il y avait en vous, manifestement quand même, cette envie de faire le comédien un petit peu.
Il y avait l'envie de faire le comédien.
Pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt ?
D'abord, les circonstances ne s'y sont pas prêtées. J'apparais 10 secondes dans un film qui a été tiré par quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelait Mazoyer, Robert Mazoyer, qui avait fait Le Poney Sauvage, qui avait fait Au Plaisir de Dieu, et qui avait tiré de mon livre sur Chateaubriand un film.
Mon dernier rêve sera pour
vous. Mon dernier rêve sera pour vous, avec Francis Huster, que j'ai beaucoup aimé. Et j'avais joué le rôle d'un émigré qui paraît pendant 40 secondes. Et j'ai toujours rêvé de faire du cinéma ou du théâtre. Et ça ne s'est jamais réalisé. Et voilà qu'à mon âge, tout à coup, on me proposait ça. Et alors, je dois vous dire que les débuts ont été extraordinairement amusants parce qu'ils m'ont fait passer des essais. Et pendant que je faisais ces essais, je voyais littéralement la consternation se peindre sur le visage de Comard et de Christian Vincent. Et je leur ai dit, après, je leur ai dit, j'étais pas fameux, hein. Et ils m'ont dit, pas fameux, vous étiez exécrable. Alors, ils se sont dit, bon, on s'est engagé, on va faire avec ce qu'on a. Et j'ai appris, je vais vous dire ce que j'ai fait. J'ai écouté ce que me disait Christian Vincent et j'ai écouté ce que me disait Catherine Faux. J'ai une immense admiration et beaucoup d'affection pour Catherine Faux, qui est une actrice formidable, qui dans le film est éblouissante, vraiment éblouissante, et qui en même temps que le film était au théâtre où elle incarnait le rôle illustré par Madeleine Renaud et elle reprenait le flambeau très brillamment. J'ai été l'écouter, il y avait une salle pleine à craquer de garçons et de filles entre 15 et 25 ans qui étaient absolument enthousiastes. Et donc, pour moi, ça a été une expérience, évidemment, très amusante et très enrichissante.
Vous avez tout simplement le rôle du président de la République. Vous êtes un petit peu le 8e président de la 5e République.
Oui, c'est ça.
Comment est-ce que vous avez réfléchi ce rôle ?
D'abord, l'histoire est donc arrivée à François Mitterrand. Je ne joue absolument pas François Mitterrand.
Pas du tout.
Je n'ai pas pensé à un moment à imiter François Mitterrand. Lucchini serait capable d'imiter François Mitterrand, et je crois qu'il y a des projets d'ailleurs pour qu'il le fasse. Mais moi, j'ai pensé simplement à un président de la République. Il se trouve que j'ai connu Pompidou parce qu'il était normalien comme moi, ce qui créait des liens. J'ai pensé un peu à Mitterrand, président de la République, sans l'imiter. J'ai pensé à mon père, qui était ambassadeur et qui était l'homme vraiment le plus simple qu'on puisse imaginer. Mais quand il représentait la République, il devenait un peu solennel. Et on ne plaisantait pas avec ça. Et j'ai pensé à une histoire de Mitterrand. Je le dis tout de suite, Mitterrand était un adversaire politique. J'ai même écrit dans le Figaro un article en 81, je crains sur 6 colonnes à la une, qui était « Je convoque François Mitterrand au tribunal de l'histoire ». Et le Canard enchaîné s'était moqué de moi, avait dit « Qui est cet inconnu qui convoque le président de la République ?» Et Mitterrand m'avait eu comme on a souvent les écrivains. Comment est-ce qu'on les a ? Par la vanité. Et dans un petit discours en province, il avait dit « Quel dommage qu'un si bon écrivain soit si nul politiquement. » Alors évidemment, je m'étais lié avec lui et sans jamais céder sur les principes, je suis, j'oserais presque dire qu'un des liens d'amitié se sont noués au-delà de nos oppositions entre Mitterrand et moi. Et donc, il y a une histoire de Mitterrand que j'aime beaucoup, où un camarade socialiste lui dit, il est président de la République, « François, je t'ai toujours tutoyé, naturellement, je continue à te tutoyer. » Et Mitterrand lui répond, « Mais naturellement, bien entendu, vous faites exactement ce que vous voulez. » Vous voyez, cette simplicité, en même temps, cette ironie et cette dignité. Il représente quand même la France et je me suis dit, il faut être naturel, il ne faut pas essayer de l'imiter, il faut être un tout petit peu réservé, un peu solennel, et derrière la tête, l'idée que tout ça est une comédie, que je joue dans une comédie, le personnage qui lui-même est une comédie et sait que c'est la comédie du pouvoir.
Tout à fait. Vous avez de nombreuses scènes seul à seul avec Catherine Faux.
Oui.
Comment s'est passé vos rapports avec cette actrice ? Alors, comment avez-vous appris d'elle ? Est-ce que vous vous êtes mis sur son rythme ? Comment ça s'est passé le travail ?
D'abord, c'était très intéressant parce que Catherine, qui encore une fois est une actrice merveilleuse et qui est devenue pour moi une amie très très chère, et qui tient le film d'un bout à l'autre. J'ai un rôle tout à fait modeste. J'ose dire qu'il y a une partie du film où je suis excellent. Excellent, c'est quand je ne suis pas là. Quand je ne suis pas là, il y a, quand vous verrez le film, il y a une espèce d'attente. On attend le président un peu comme Godot.
Godot, c'est comme Godot, ça fait
penser à ça. On l'attend comme le Messie, n'est-ce pas ? Il ne paraît pas, on parle de lui. Et là, c'est épatant. Quand je parais, on tombe de son haut. Mais évidemment, Christian et Catherine m'ont beaucoup aidé. C'est un peu comme un directeur de journal, vous savez. Un directeur de journal ne donne pas des ordres. Il ne donne pas d'ordre. Mais il parle avec vous, il essaye de vous expliquer. Il y a une espèce d'empathie. Il faut dire que toute l'équipe, du haut en bas de Christian Vincent et du producteur, jusqu'au type qui vous appelait des taxis ou qui vous donnait des cafés, c'était des gens délicieux. Des gens absolument charmants, qui sont tous devenus des amis. Et je me sentais très bien. Vous savez ce que c'est, vous savez mieux que moi, en quoi consiste le cinéma du côté professionnel. Ça consiste à
attendre.
Je me levais à 6h du matin, pendant 3 semaines, je me suis levé à 6h du matin, pour être parti à 7h, pour être à 8h au tournage. Et là, il y avait maquillage, coiffure, habillage, ça durait 1h30, et ensuite on attendait. On attendait 2h, 3h, on tournait 10 minutes, et puis on déjeunait. Après le déjeuner, on avait sommeil, on allait s'endormir, on attendait encore. On tournait vers 5h, encore 10 minutes, et puis on allait se coucher, épuisé. Voilà comment ça se passe. Et il faut dire tout de suite que mon rôle est un rôle à la fois central, puisque c'est le président de la République, et un rôle secondaire. Encore une fois, le film repose sur Catherine Fraud.
Il repose tout à fait sur Catherine Fraud, mais comme vous l'avez dit si justement, vous êtes un petit peu cette figure de Godot, ce grand absent, cet éternel absent autour duquel tout un protocole se remue. Est-ce que cette figure de président un petit peu solitaire, incompris, qui apparaît comme ça, comme le Messie, est-ce que vous trouvez que ça vous ressemble ?
Non, pas du tout. Ça ne me ressemble pas du tout. Je suis spontané, beaucoup plus gai. Le protocole, c'est pas mon fort. C'était un peu le fort de mon père, mais c'est pas mon fort à moi. Et quelquefois, on me dit, mais est-ce que ça a donné envie de venir président de la République ? Je peux vous dire que si j'étais président de la République, on demande souvent quelle serait votre première décision. Ma première décision serait certainement de démissionner. C'est quelque chose qui m'est tout à fait étranger. C'est donc, d'une certaine façon, bizarrement, un rôle de composition.
Vous n'avez pas démissionné dans ce film pour notre plus grand plaisir, puisque, contrairement à vous, je pense que vous êtes très très bien en président de la République. Vos livres ont été adaptés, on en a parlé de l'un d'entre eux tout à l'heure, on a parlé de « Mon dernier rêve sera pour vous ». Il y a aussi « Au plaisir de Dieu » qui a été adapté à la télévision en 77.
Alors, vous qui connaissez bien le cinéma, ça va vous amuser. Il y a un film que j'ai toujours beaucoup aimé. Naturellement, j'ai aimé les films de Bergman, j'ai aimé les films japonais à la folie, j'ai aimé les films italiens. Il y a un film français que j'ai toujours trouvé excellent. Et on se moquait de moi à l'époque, et maintenant tout le monde reconnaît que c'est un grand film, c'est Les Tontons Flingueurs. Et Les Tontons Flingueurs a joué un rôle dans ma vie. Ce qui est drôle. Pourquoi ? Si vous vous rappelez la première scène, c'est un vieux truand qui meurt.
Bien sûr.
Et qui lègue sa fille à Lino Ventura. Et le rôle du vieux truand qui meurt, c'est quelqu'un que j'ai adoré, qui était Jacques Duminil. Et quand on a tourné, quand Robert Moisoyer, que lui aussi j'ai beaucoup aimé, a tourné Au plaisir de Dieu, ça a été un succès phénoménal. À l'époque, c'est vous dire mon âge, il n'y avait que 2 chaînes. Et le film, à la télévision, durait 9 heures. Il y avait 6 reprises de 1h30. Et une des reprises, il n'y avait pas grand-chose sur l'autre chaîne, on a fait 76% de parts de marché. C'est inimaginable.
Inimaginable.
Et le rôle était tenu par Jacques Duminil, qui a été merveilleux. J'avais pensé, je dois vous dire, à Burt Lancaster.
Ah, et ça aurait été un bon choix.
On avait envoyé le scénario à Burt Lancaster, qui avait accepté et qui avait demandé, je crois, 6 fois le budget total du film.
Oui, forcément.
Alors, on s'était rabattu sur Duménil, que j'ai adoré. Et cette fille qu'il confie à Ventura a un amoureux qui est Claude Rich.
Absolument.
Et c'est Claude Rich que je remplace.
Dans Les Saveurs du Palais.
Dans Les Saveurs du Palais. Vous voyez le rôle qu'a joué les Tontons Flingueurs dans ma vie.
J'ai découvert à ma propre grande surprise qu'aucun de vos romans n'avait été adapté pour le cinéma.
Non, aucun.
Est-ce que vous aimeriez ça ?
C'est un grand regret pour moi. J'ai toujours pensé qu'au moins deux d'entre eux, il y en a qui sont difficiles à adapter. Je reconnais volontiers que c'est une chose étrange à la fin, que le monde, c'est difficile à adapter au cinéma. Mais il y a deux de mes livres qui auraient pu être adaptés au cinéma, pas non plus La Douane de Mer, qui sont deux esprits qui se rencontrent, mais Le Juif errant et La Gloire de l'Empire auraient pu être adaptés au cinéma. Et c'est un regret pour moi qu'il n'ait pas été.
Eh bien, aujourd'hui, nous lançons un appel aux cinéastes. Jean d'Ormesson souhaiterait, et nous aussi, nous souhaiterions que ces livres soient adaptés au cinéma, enfin. Vous êtes un homme de littérature. On vous a beaucoup entendu sur le sujet de la littérature française. J'aimerais beaucoup que vous me parliez de cinéma. Qu'en est-il du cinéma de Jean d'Ormesson ? Qu'est-ce que vous aimez ? Quel est votre cinéma de prédilection ?
Alors, je voulais dire tout de suite que ça ne m'est pas monté à la tête. Je suis un acteur par accro. Comment est-ce qu'on dit en politique de substitution ? Qu'est-ce qu'on disait de Hollande à propos de Strauss-Kahn ?
Un suppléant.
Un suppléant, voilà. Je suis un écrivain que l'amitié de quelques-uns a propulsé dans un modeste rôle de cinéma. J'ai beaucoup aimé le cinéma. Beaucoup. Comme beaucoup de normaliens. J'ai même rêvé de faire du cinéma. Non pas d'être acteur, mais d'être derrière.
Derrière la caméra.
J'ai beaucoup d'amis. Veillargans a commencé par faire des films. Beaucoup d'amis ont fait des films. Je ne pouvais pas faire des films parce que j'ai longtemps passé. Maintenant, je crois que les gens ont compris que c'était passé pour moi. Mais longtemps, j'ai été considéré comme mondain. Mais en réalité, je suis un solitaire. Je ne sais pas travailler en équipe. Et ce que j'aime dans la littérature, c'est qu'on est seul. Mais j'ai beaucoup aimé le cinéma. J'ai été reçu à l'école normale en 1944 et j'ai passé l'agrégation deux ans ou trois ans après. Et quand j'étais à l'école normale, au lieu de travailler, c'était en 1945, c'était au lendemain de la libération, arrivaient tous les films américains si brillants, les Lubitsch, les Capra, enfin des quantités
de... Casablanca, Autant n'importe le vent.
Casablanca, Autant n'importe le vent, vous rendez compte. Et je crois que pendant deux ans, j'ai été... En plus, j'étais peut-être pas très heureux dans mes aventures sentimentales. Donc, j'allais au cinéma trois fois par jour. J'allais aux Ursulines ou au studio Action, parce que c'était moins cher. Et j'allais à la séance de 3h, de 5h et 9h du soir. Et j'ai vu défiler tous ces films. Et naturellement, j'ai beaucoup aimé les grands films Kurosawa ou Citizen Kane, j'ai trouvé ça très beau. Mais ce que j'aimais surtout, c'était une catégorie que le Nouvel Observateur appelait « tarte à voir ». Parce que les films géniaux, je m'en méfiais un peu, c'est quelquefois un peu barbant. Mais « tarte à voir », ça j'ai adoré ça. Casablanca, par exemple, « tarte à voir ». Ou « La route de Madison », « tarte à voir ». Ou « Out of Africa », « tarte à voir ». Quand Redford lave les cheveux de Meryl Streep. Et quand ils dansent tous les deux sous la tente, vous vous rappelez ?
Ah, très bien.
Et qu'elle lui dit, à partir de maintenant, tout ce que vous direz, je le croirai. Ah, les larmes viennent aux yeux.
Quel est votre tout premier souvenir de cinéma ?
C'est amusant, je sais très bien. Je sais très bien, c'était un film qui s'appelait Veillée d'armes. Ça vous dit rien ?
Rien du tout.
Je crois avec Annabella. Ça existait, ça,
oui, oui. Dans les années 30, oui.
Et je crois un autre film très beau qui était sur l'Himalaya, qui s'appelait Lost Horizons, Les Horizons Perdus. Ça vous dit quelque chose,
oui,
ça
tout à fait.
Et je ne l'ai jamais revu, ce film. Ça était un film des années 30. Je devais avoir 6 ans, 7 ans. Parce que naturellement, on ne me laissait pas aller voir des films avec des femmes. Alors, Veille d'armes, c'était un film de guerre. Et Lost Horizon, c'était un film sur Shangri-La, sur le Tibet, l'Himalaya.
Annabella, qui jouait dans Vieille Dame, jouait aussi dans Hôtel du Nord de Marcel Carné.
Ah, comment, Hôtel du Nord ?
Quelques années plus tard, oui, tout à fait.
Mais c'est pas elle qui dit...
Ah non, c'est Arletty.
C'est Arletty, mais
le second rôle tenu par la jeune femme, c'est Annabella.
Oui. Ah, Annabella, oui. Et Arletty dit...
Atmosphère.
Atmosphère, atmosphère.
Si vous partiez, imaginons, si vous partiez aujourd'hui sur une île déserte et que vous vouliez emmener un film avec vous, lequel ? Lequel ? Un seul ? Le film de Jean d'Ormesson.
Oh, c'est vraiment difficile. C'est comme un livre. C'est un livre, on veut toujours répondre la Bible ou l'Iliade et l'Odyssée. Un film, oh, il faudrait que j'en emporte plusieurs. Je crois que je prendrais quand même un Woody Allen, un film avec Ingrid Bergman. J'ai tellement aimé Ingrid Bergman, jusque dans ses films les plus faibles. Il y a un film qui s'appelle Indiscret, qu'il ne faut pas confondre avec Indiscrétion. Indiscrétion, c'est Philadelphia Story.
Ouais, ouais.
Indiscret, c'est une histoire très simple. Il y a deux acteurs que j'adore, qui sont Cary Grant et Ingrid Bergman. Et ce n'est pas un film formidable, ça. C'est du théâtre filmé. Mais l'idée est merveilleuse, parce que, en général, les hommes mariés font la cour à des femmes en faisant croire qu'ils ne sont pas mariés. Et là, c'est Cary Grant qui a très peur des femmes, et qui est amoureux d'Ingrid Bergman, mais il n'est pas marié, mais il lui fait croire qu'il est marié pour ne pas risquer d'être obligé de l'épouser. Et c'était pas tant. Ingrid Bergman est d'une beauté formidable. Alors, peut-être Woody Allen, peut-être un grand film de Kurosawa, ou un grand film de John Ford, et un Bergman. Bergman, Ingrid.
Oui. Votre femme, Françoise Bréguin, votre femme avait un cousin qui faisait du cinéma ?
Mon cousin Germain.
Oui,
c'était Louis Malle était mon cousin Germain.
Vous l'avez bien connu, donc, Louis Malle.
Je l'ai très bien connu.
Est-ce que vous avez une bonne anecdote pour nos auditeurs à raconter sur Louis Malle ?
Ah, bien, la meilleure anecdote que je peux vous raconter, c'est qu'il avait épousé une femme. Il a épousé plusieurs femmes d'une beauté merveilleuse. La dernière était Candice Bergen. Et avant, il avait épousé une fille ravissante et d'une beauté extraordinaire qui vit toujours et qui s'appelle Anne-Marie. Et qui est la femme actuellement d'un académicien des Beaux-Arts.
C'est vrai ?
Oui, c'est la femme de Rougemont.
Le tout premier festival de Cannes devait se dérouler en 1939, et il a été annulé malheureusement à la dernière minute à cause de la guerre naissante. La sélection était déjà prête, il y avait dans la sélection Le Magicien d'Oz de Victor Fleming par exemple, et le président du jury devait être Louis Lumière.
Oui.
Et puis finalement, ce festival a été reporté en 2002, donc il y a 10 ans. Et qui l'a présidé ?
Oui, c'est moi, c'est grâce à Jacob, évidemment. Je suis très reconnaissant. J'ai été président du jury, un président pas formidable, pas immortel. Mais enfin, j'ai monté les marches de Cannes. Et en effet, on a couronné, je crois m'appeler le Magicien d'Oz. Et j'avais vu plusieurs films excellents. Goodbye, Mr. Chips.
Absolument.
Vous vous rappelez, Le Magicien d'Oz, un film sur un train aussi, je ne m'en rappelle plus lequel. Et c'était une assez bonne année, 1939.
Donc vous n'étiez pas seulement le successeur du président de la République, mais le successeur de l'inventeur du cinéma lui-même.
Voilà.
C'est beaucoup drôle quand même, qui vous rattache à l'histoire cinématographique française.
Un intersigne, oui, j'avais pas pensé à ça.
J'aimerais savoir si vous avez d'autres projets en tant qu'acteur maintenant.
Non. Alors, j'ai été, comme Art m'a dit, on va vous payer très très peu, mais vous allez voir, quand le film sera fini, les contrats vont pleuvoir sur vous. Eh ben non, je crois que c'est une parenthèse dans ma vie d'écrivain.
Parlez-nous un peu de théâtre, peut-être. Vous montez sur les planches, semble-t-il.
Alors, non seulement je fais l'acteur, comme disent les Italiens, mais j'ai une pièce qui va être jouée. Le film sort le 19 septembre et le 2 octobre, au Théâtre Héberto, il y a une pièce de moi qui va être jouée qui s'appelle La Conversation. Et alors ça, c'est tout à fait autre chose. Je ne suis pas du tout un spécialiste de Napoléon, sur lequel mon confrère...
Jean Tullard
sait tout. Et sur lequel mon autre confrère, Jean-Marie Roy, vient d'écrire un très beau livre qui s'appelle « Napoléon ou la destinée ». Je lisais des mémoires de l'époque, les mémoires de Madame de Rémusat, de Madame de Chastenay, de Madame de la Tour du Pin, et je voyais comme ce jeune général Bonaparte était brillant. Et je me suis dit, tout le monde sait qu'il était premier consul à partir du 19 mai, le coup d'État, et tout le monde sait qu'il est couronné en 1804, empereur, mais comment est venu à ce général corse, républicain, on dirait aujourd'hui, c'est un anachronisme, on dirait aujourd'hui de gauche, qui était ami de Robespierre. Il avait juré haine à la royauté. Il avait beaucoup d'amis ou d'ennemis, comme Bernadotte, qui s'était fait tatouer sur la poitrine « mort au roi ». Et Bernadotte devient roi de Suède. Personne n'avait le droit de le voir nu, naturellement. Comment lui est venue l'idée de devenir empereur ? Et je me suis dit, on va faire une conversation. J'ai hésité entre Talleyrand et Cambacérès. J'ai pris Cambacérès parce que Cambacérès avait voté la mort du roi, ce qui était donc plus frappant. Et parce que Cambacérès était le deuxième personnage de l'État, il était le deuxième consul. Et dans cette conversation, j'essaye de montrer comment Bonaparte lance son idée, la teste auprès de Cambacérès, qui est un personnage très intéressant parce qu'il est très intelligent, il est homosexuel. Et les trois consuls, c'était Bonaparte, Cambacérès et Lebrun, qui était un peu insignifiant, et Talleyrand, toujours intelligent, les avait ramassés sous une formule latine, hic, ec, hoc. Hic, c'est lui, lui, emphatique, Bonaparte. Ec, c'est elle, Cambacérès, et hoc, c'est ça, Lebrun. Et en une heure, Bonaparte convainc Cambacérès qu'il faut renoncer à la République pour l'Empire, qu'il faut renoncer au gouvernement d'Assemblée pour le gouvernement personnel, et qu'il faut renoncer à la République pour l'Empire. Mais l'Empire, ce n'est pas le retour à la royauté, n'est-ce pas ? C'est autre chose, c'est l'Empire. À un moment donné, il dit « Nous avons juré haine à la royauté, nous n'avons jamais rien dit sur l'Empire. » Et on voit comme Bonaparte, qui est très très brillant, extraordinairement intelligent, Cambacérès aussi, très, très intelligent. Ce sont les hommes du XVIIIe siècle, n'est-ce pas, les quatre grands esprits de l'époque. Bonaparte, Talleyrand, Fouché et Chateaubriand sont les hommes du XVIIIe siècle. Ils parlent comme le prince de ligne. Et Bonaparte va finir empereur, à être un peu solennel, un peu engoncé. Mais quand il est jeune, il est extraordinairement brillant. Il est étouffé, le dialogue. À un moment donné, il dit à Fouché, je le mets dans la bouche de Cambacérès, il dit à Fouché, quand il était déjà empereur, « Fouché, vous avez voté la mort du roi, hein ?» Et Fouché lui répond, « Sire, c'est le premier service que j'ai eu le bonheur de rendre à votre majesté. » C'est quand même très brillant.
C'est du dialogue de théâtre, voire de cinéma.
C'est un dialogue de théâtre, tout fait. Et Cambacérès, il lui dit aussi, « Vous avez voté la mort du roi. » Et Cambacérès avait voté la mort du roi en proposant de ne pas le tuer tout de suite, de le garder comme otage et de le tuer si les ennemis attaquaient. Et alors il lui dit, vous avez voté la mort du roi, et Cambacérès lui répond, oh, à peine. C'était quand même un dialogue de théâtre.
C'est parfait. Donc cette pièce s'appelle...
Cette pièce s'appelle La Conversation.
La Conversation.
Et elle sera présentée à partir du 2 octobre au Théâtre Berthaud par deux jeunes gens très brillants. L'un, c'est Maxime d'Abbeville. Maxime d'Abbeville, c'est le neveu du rameur d'Abbeville. Et c'est un très brillant acteur qui a déjà fait magnifiquement. Il a présenté le journal d'un curé de campagne de Bernanos. Et Cambacérès est joué par un très bon acteur qui s'appelle Alain Pochet. Et c'est mis en scène par un garçon aussi très très jeune qui s'appelle Jean-Laurent Sylvie. Et je pense que ça sera très bien.
Donc ça, c'est à partir du 2 octobre.
À partir du 2 octobre au Théâtre Ouverto.
Pour le cinéma, le film dans lequel vous jouez Les Saveurs du Palais sort le 19 septembre. Je vous recommande à tous d'aller le voir. Je rappelle également que Jean d'Ormesson, depuis 2 ans maintenant, est disponible en DVD, du moins ses entretiens avec Olivier Barrault, dans Une histoire de la littérature française par Jean d'Ormesson aux éditions Montparnasse. Jean d'Ormesson, vous jouez dans un film exquis. Vous êtes un homme absolument délicieux. Merci infiniment pour cet entretien.
Merci à vous.